Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre présence de ce soir. Comme vous avez pu le constater sur les dépliants donnant le programme du carême de notre paroisse, nous avons cette année programmé deux prédications de carême. Le calendrier est tel que nous ne pouvions pas en prévoir davantage. Ces deux prédications portent sur des thèmes que nous connaissons ou que nous croyons connaître, que nous avons déjà médités, contemplés et pourtant sur lesquels il faut sans cesse revenir, tant ils sont essentiels. Ce soir, le Père Jean-Louis Gallet va nous parler du mystère de la croix, le Christ qui nous a aimés jusqu'au bout. Que de fois nous nous sommes mis devant un crucifix, et que de fois nous avons entendu déjà des prédications sur le Christ mort par amour pour nous, ayant versé son sang pour nous. On peut avoir l'impression de connaître ça par cœur, mais on va ce soir se laisser à nouveau enseigner, essayer de nous laisser toucher par ce mystère. Et la semaine prochaine, bien, nous aborderons un thème que nous connaissons bien également, ou que nous croyons bien connaître, qui sera celui de l'Eucharistie, le Christ qui s'est donné à nous pour toujours. Essayons de bien ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint, de sorte d'être pleinement réceptifs, ne pas écouter ces prédications comme, j'allais dire, des choses justement qu'on connaît avec nos clichés, nos approches. Laissons-nous peut-être surprendre et laissons-nous plus encore rejoindre au plus intime de nous-mêmes, pénétrer au fond de notre cœur par ce que l'Esprit Saint nous dira à travers les prédicateurs.
La croix est vraiment un mystère, ça ne fait aucun doute. Le problème, c'est la définition de ce qu'est un mystère. Alors, pour permettre à quelques-uns encore d'arriver, c'est comme les deux couplets du chant d'entrée. Je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée à Notre-Dame du Lys, mon premier poste. C'est un enfant qui disait à sa mère : « Moi, je veux être prêtre. » Alors depuis, il se trouve qu'il est marié, qu'il a plusieurs enfants. Mais à l'époque, il disait « Moi, j'aimerais bien être prêtre. » Alors sa mère lui dit « Mais comment est-ce que tu vas faire alors ?»« Oh ben, c'est pas très compliqué, ça s'apprend. » il y a des cours, certainement. Et puis dire la messe, c'est d'abord faire des gestes. On lit ce qui a marqué dans le missel, mais il servait déjà la messe, donc il savait ce que c'était qu'un missel. Et puis, quand on ne sait pas répondre à une question, eh ben on dit, c'est un mystère. Voilà, c'était la vision qu'il avait du prêtre. Et pourtant, c'est vrai, par un certain côté, c'est qu'il y a des choses dans notre foi que nous ne pourrons pas percer par notre raison, et où tous les raisonnements nous ayant fait approcher du centre de ce qu'est le mystère, il faut laisser place à l'adoration. Alors je commence très brièvement par une piste que je n'ai pas exploitée, mais que je signale parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont écrits là-dessus. C'est une thématique plus fréquente qu'on ne le pense, c'est la dimension cosmologique de la croix. Bon, ça nous entraînerait dans des détours inutiles, mais beaucoup de pères de l'Église se sont prononcés à ce sujet, notamment Saint Grégoire de Nice, ainsi qu'un auteur qui s'appelle Jean de Gaza, mais il y en a beaucoup d'autres, et qui envisage au travers de son symbolisme des deux dimensions, horizontale et verticale, la création tout entière qui est saisie et récapitulée par la croix. Le zénith et le nadir, qui sont les deux opposés, le haut et le bas, l'Orient et l'Occident, l'Est et l'Ouest. D'autres parlent d'une clé qui est plantée au Golgotha et qui ferait tourner le monde entier. C'est un pivot de la création. Et cette dernière symbolique est reprise par la devise de l'Ordre des Chartreux et son insigne. On dirait un logo aujourd'hui. C'est un globe terrestre qui est surmonté d'une croix et la devise est « Stat crux dum volvitur orbis ». La croix demeure tandis que le monde tourne. C'est une vision cosmologique qui a été exploitée notamment dans la liturgie orientale, byzantine spécialement, mais qui a son application dans notre propre liturgie, mais ça serait l'occasion d'une autre conférence, mais la liturgie c'est de la dynamite ou de la nitroglycérine, donc il faut manier ça avec délicatesse. Sur les feuilles mauves ou violettes là, qui étaient à l'entrée, vous avez le plan de ce que je vais dire maintenant et l'Ave Regina Caelorum, que nous ne connaissons pas très bien. Il faut dire qu'il n'y a que 11 siècles qu'on le chante dans l'Église. Alors, entrons dans le sujet par un constat que tous nous avons fait. C'est une question cruciale, sans jeu de mots. C'est-à-dire que nous sommes à la croisée de deux chemins, comme ceux qu'on balisait ou signalait par une perche indiquant deux directions. Il s'agit de faire un choix. Le constat est le suivant. Il y a un déni face à ce thème de la croix, comme pour celui de la mort et de la souffrance qui sont associés. On refuse d'en parler. Vous savez bien à quel point on cache la mort aujourd'hui. Parce que cela fait mal. Parce que cela répugne à notre sensibilité. Et de plus, cette mort dont il est question, celle du Christ, est une mort sanglante, ce qui ajoute encore à notre répugnance. Comme nous en avons l'habitude, nous ramenons tout à notre époque en disant que ça, c'est aujourd'hui, mais que par le passé, c'était différent. Je pense que cette crainte de la croix est toujours et de toujours, et qu'il y a aussi des choses qui, elles, par contre, sont différentes. La mort était plus présente autrefois parce que aussi, je pense qu'on entrevoyait davantage l'après. Peu de choses distrayaient le commun des mortels de cette préoccupation de l'après-mort. Saint Paul, le premier, vous le savez, a fait l'expérience de son refus de parler de la croix lorsqu'il voulut l'évacuer dans son discours à l'Aréopage d'Athènes. Nous lisons ça dans les Actes des Apôtres. Il ne parla que de la résurrection, parce qu'il ne voulait pas dire ce qui est le plus difficile à entendre. Mais nous savons aussi comment, après avoir reconnu son erreur, il conclut en disant aux Corinthiens « Je ne veux rien savoir que Jésus et Jésus crucifié ». C'est dans la première aux Corinthiens. Nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Toujours dans la première. Quelles sont les raisons de ce constat? L'une des raisons, c'est le soupçon que l'on fait peser sur Dieu le Père d'être en quelque sorte sadique, de prendre plaisir aux souffrances du Christ, de les lui avoir imposées. Or, si nous savons lire et nous rappeler ce que dit l'Écriture, nous voyons qu'il n'en est rien. Luc 24 est là dans le passage des disciples ou pèlerins d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Voilà ce que Jésus dit après avoir expliqué, commenté l'Écriture auprès des deux pèlerins. Ce qu'exprime à partir des traditions très anciennes deux de nos prières eucharistiques, la seconde et la quatrième. La seconde qui dit « Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion ». C'est juste avant les paroles de l'institution de l'Eucharistie. Et la quatrième prière, quant à elle, nous dit « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde », et c'est le thème de la conférence, « il les aima jusqu'au bout ». Ce qui est une traduction discutable parce qu'en latin c'est « in finem », c'est-à-dire jusqu'à la fin. Et nous trouvons aussi dans saint Jean, au chapitre 10, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». Toujours dans saint Jean, au début de la Passion, chapitre 18, Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous ? » Il faut donc écarter toute idée d'une obligation cruelle imposée au Fils par son Père. C'est librement que le Fils offre sa vie. Et nous trouvons encore une confirmation de ce choix, pas seulement une acceptation. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, c'est pourquoi le Christ, en entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Mais la question qui se pose est aussi la suivante. Pourquoi ce choix de la croix, s'il fallait, et c'est le Christ qui nous le dit, c'est que ce n'est pas une fatalité sans raison, mais une nécessité, une convenance, c'est-à-dire l'inverse. La croix n'est pas un accident de parcours qui obligerait Dieu à revoir sa copie. Quand il créait la plus lointaine des galaxies, il entrevoyait déjà la croix. Et c'est une chose très mystérieuse que Dieu voyait ce qui arriverait avec l'homme et son péché, et pourtant lui laissait toute la liberté. Mais pourquoi avoir choisi ce moyen? Dieu aurait pu faire autrement, notamment parce qu'il est tout-puissant. Un ange qu'il aurait envoyé, un rituel fait par qui que ce soit, choisi par lui. La première raison pour laquelle Dieu va jusque-là, jusqu'à la croix, c'est en raison de la proportion et gravité de la faute du premier homme. Nous avons édulcoré ce qu'est la gravité du premier péché, notamment avec des symboles iconographiques, la fameuse pomme. On nous parle du fruit, on ne parle pas de pomme dans la Bible. Nous ne voyons pas la gravité de ce péché. D'abord parce que nous n'avons pas commis ce péché, et puis ça nous semble tellement lointain dans l'histoire humaine. Vous savez, quand un enfant a volé quelque chose, et puis qu'on le découvre, on lui dit « Mais elle n'est pas à toi cette petite voiture, tu l'as volée ?»« Oui, mais c'était il y a tellement longtemps. » Mais l'obélisque de la place de la Concorde aussi, nous l'avons volé. Non, mais il y a longtemps. Bon. Alors nous n'avons pas commis le péché originel. Nous ne voyons pas du tout quelles incidences il peut y avoir. Nous avons du mal à le conceptualiser au plan intellectuel. Mais en fait, ce qu'il faut dire le plus clairement possible, c'est que le péché originel, c'est être coupé de Dieu, séparé de lui qui est la vie. Et par conséquent, c'est être comme des morts. La seconde raison, c'est que la croix, c'est le choc frontal entre les forces de mort liées au péché, un péché qui justement aboutit à la mort de celui qui est le plus saint de tous les êtres, absolument incréé, le seul saint. Et se trouve là le meurtre du Christ qui est amour comme son Père. À la haine qui va jusqu'au bout, répond l'amour qui va jusqu'au bout. Il y a là comme un absolu, une logique dans l'absolu du mal, et pour réparer, une logique dans l'absolu de l'amour. Et cet amour incarné s'offre à son Père. Ce ne sont pas tant les souffrances en tant que telles qui nous sauvent, mais l'union d'amour et d'abandon confiant du Fils dans les mains du Père. En réalisant cette offrande culmine le plus haut sommet de l'amour. À l'époque de Jésus, dans le contexte où il se trouvait, géographiquement, culturellement, il faut se souvenir que la croix était le plus cruel et le plus humiliant des châtiments. Seule cette descente aussi bas de celui qui est l'amour, qui s'est incarné, peut réparer infiniment. Mais pourquoi fallait-il une telle réparation du péché ? La miséricorde n'est-elle pas gratuite ? Nous revenons aussitôt à l'incarnation rédemptrice. Seul un Dieu fait homme pouvait réparer l'alliance rompue envers Dieu. Si quelque chose est rompu, il faut un acte qui réponde à l'autre acte qui a détruit. Le péché qui a été commis par des êtres finis, comme nous, des humains, Adam et Ève, est infini. Une offense infinie parce que c'est Dieu qui est atteint. On entend souvent dire que nous avons perdu le sens de Dieu. Peut-être, mais il faudrait dire aussi que nous avons perdu le sens du péché. Nous ne voyons pas très bien sa gravité dans notre propre vie, souvent parce que nous vivons un peu dedans, ou qu'il nous cerne. Nous ne voyons pas à quel point Dieu nous aime et combien cela l'atteint. Or, si ce péché est d'une portée infinie, seul un être infini peut le réparer, Dieu. Pourtant, une faute doit être réparée par celui qui l'a commise, c'est-à-dire l'homme, qui lui est fini, qui est limité. Donc c'est impossible. On se trouve dans une impasse jusqu'à l'incarnation rédemptrice. Seul un homme Dieu peut réparer. Faire la part de l'homme et celle de Dieu. L'homme est capable de pécher, mais pas de réparer. Dieu fait homme peut réparer. Et seulement lui. C'est ce qu'on appelle le motif de l'incarnation. Elle est rédemptrice. Et saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire, en le démontrant, que si l'homme n'avait pas péché, Dieu ne se serait pas incarné. Alors venons-en au deuxième point qui est à l'école de la croix, les saints et nous. Il y a l'appel de l'Évangile. Plusieurs passages qui nous invitent à porter notre croix, soit directement. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est saint Luc au chapitre 9. Qui veut sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc au chapitre 8. Mais aussi, non plus uniquement directement, nous sommes invités à porter notre croix en montrant une vie vertueuse et sainte. Vous savez, le chapitre 25 de saint Matthieu, ce que l'on fait au plus petit, le bon samaritain, être le prochain de l'autre, être serviteur, tout quitter. Alors malgré l'ordre du titre, les saints et nous, commençons par nous, et les saints passeront après. Nous pécheurs, Comment accueillir la croix dans notre vie? La souffrance nous heurte dans notre sensibilité en particulier parce que Dieu nous a créés pour le bonheur. La souffrance est un mal, pas seulement ontologique, c'est-à-dire dans son être ou son non-être, mais le mal est ressenti aussi corporellement, physiquement, sensiblement. Si la souffrance a une valeur, c'est parce que depuis la résurrection, elle prend un sens nouveau. Si le grain de blé ne tombe en terre et s'il ne meurt pas, il ne peut porter du fruit. La mort prend un sens à cause de la résurrection. Jésus, le Padre Pio, Marthe Robin, Sainte Thérèse de Calcutta n'ont pas aimé la souffrance et la croix. La croix n'a de valeur que dans l'offrande qui en est faite. Autrement, on tombe dans un dolorisme ou un masochisme qui sont malsains et qui n'ont autre valeur que celle de la perversion, c'est-à-dire aucune, ou plutôt qui sont un vice d'autant plus grave qu'ils constituent la perversion de la vertu. On n'aime pas la souffrance. Et si nous avons tant de mal à nous mettre à cette école de la croix, c'est plutôt bon signe. C'est la reconnaissance de notre condition de faible créature pécheresse. C'est cette condition qui rend notre acceptation si difficile du fait que nous nous rebellons face à la croix. Notre premier mouvement n'est pas l'acceptation. Il faut faire très attention aux représentations un peu trop hollywoodiennes de la sainteté, comme si c'était facile. Les saints ont dû s'ajuster, ajuster leur volonté à celle de Dieu. Ils ont dû travailler, si on peut employer cette expression. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous, travailler? Eh bien, il s'agit pour nous de se préparer à nous mettre à cette école, dans le quotidien, par nos petites fidélités, dans le simple devoir de notre état. Vous aurez peut-être remarqué comme on parle si peu du devoir d'état. Il n'y a que des droits, il n'y a pas de devoir, il n'y a que des droits. On n'en parle pratiquement jamais. Il s'agit de demander à Dieu pour nous de savoir, quand la croix se présentera, comment l'accueillir. Et par conséquent, déjà le faire dans les petites choses qui font notre quotidien. Voir la main de Dieu dans les petites choses. Alors pour se préparer à cela, il y a deux points importants, me semble-t-il. C'est la contemplation de la croix et l'abandon. En quoi la contemplation de la croix peut-elle procurer un soulagement pour la personne qui souffre, par exemple? Est-ce que cela ne risque pas d'avoir un effet contraire et d'augmenter la souffrance? Il n'est que de voir le regard des personnes hospitalisées dans des structures où il y a encore une croix, ou bien parce que la famille a apporté une croix, ou relevé le témoignage des saints, comme notre fondateur, il n'est pas canonisé, mais c'est un saint, prêtre, qui regardait sa croix et qui la serrait dans ses mains avant de mourir. La contemplation de la croix apaise. Et ce fut le motif de la conversion d'Edith Stein, qui découvre la foi grâce à une amie qui a perdu son époux lors de la guerre en 1917, qui est très éprouvée, bien sûr, mais surtout, elle est réconfortée par sa foi au Christ. Ce fut, dit-elle, ma première rencontre avec la croix, avec la force divine qu'elle confère à ceux qui la portent. Pour la première fois m'apparut visiblement l'Église, née de la passion du Christ et victorieuse de l'aiguillon de la mort. À l'instant même, mon incrédulité céda. En contemplant le Golgotha, nous y découvrons un frère en humanité. vrai homme, solidaire de nos douleurs, identifié à nos plaies. Regardez les plaies et les douleurs de Jésus-Christ crucifié, dit Grignon de Montfort, il vous le dit lui-même, ô vous tous qui passez par la voie épineuse et crucifiée par laquelle j'ai passé, regardez et voyez. Ensuite, contemplez le crucifié, lui qui est innocent, ne peut que nous aider à relativiser nos propres douleurs. Nous devrions être saisis par ce mystère de la charité du Seigneur envers nous. À ceci, nous avons reconnu l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Et ensuite, il y a l'abandon. L'abandon que nous retrouvons chez tous les saints. Dans Matthieu 11, nous trouvons de la part de Jésus un encouragement. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Il ne s'agit pas là d'une psychologie de lâcher prise, peut être valable dans une sorte de thérapie. Il ne s'agit pas de rhétorique, mais de lâcher prise en se reposant sur Jésus. Dieu sait ce qu'il fait. Et il attend de nous que nous soyons dans cet abandon qui seul peut nous procurer le repos parce qu'il y a comme un transfert de charge entre le Christ et nous. Autrement dit, si nous sommes dans l'acceptation de prendre ce que Dieu nous envoie, nous serons dans le soulagement, car c'est lui qui portera tout. Pour prendre une autre comparaison, qui n'est pas dans l'Évangile, mais qui me semble assez parlante, disons que le mal et la souffrance sont comme un oursin qui serait déposé dans notre main, mais nous, au lieu de laisser reposer l'oursin, nous nous crispons. Nous serrons la main et cela fait mal. Nous ne sommes pas dans l'abandon. C'est cet abandon à la divine providence que les saints ont pratiqué dans l'épreuve. C'est même le titre d'un ouvrage, L'abandon à la divine providence, ancien et classique de Jean-Baptiste Caussade. C'était, je vous le recommande, le livre de chevet du saint curé d'Ars. Plusieurs doivent le connaître. Alors les saints maintenant, venons-y. Avec les saints, nous entrons dans un domaine vraiment particulier. C'est souvent celui de l'excès, disons-le franchement. Et c'est d'ailleurs pourquoi on ne peut demander d'emblée à quelqu'un de les imiter matériellement. Ce serait dangereux dans la mesure où ce serait griller une étape. C'est seulement quand on est arrivé à un certain niveau que l'on ressent parfois le désir d'aller plus loin. Et l'Église prudente demande que cela soit confirmé par le Père spirituel. Sinon, en se dirigeant tout seul, on risque de céder à un attrait, un caprice, qui ferait plus de mal que de bien. La pratique que l'on s'imposerait risquerait d'être seulement matérielle, disons une imitation. Si les saints sont des excessifs, c'est pour que nous soyons modestement un peu en dessous, et ce serait déjà beaucoup. S'ils sont donnés pour saints, c'est aussi pour qu'ils soient des exemples pour nous. Mais si tel saint a enduré des supplices avec une patience remarquable, cela peut nous inspirer d'être patients lorsque l'occasion se présente, et non pas de reproduire ce qu'ils ont vécu à la lettre. Autrement dit, il faut transposer pour nous, avec nos forces, nos santé, selon notre époque. Mais pour autant, il ne faut pas se dire « je n'y arriverai jamais » ou bien « c'est même pas la peine que je commence » et du coup replier sa canne à pêche et rentrer à la maison. Il faut parfois oser. Et c'est là que Dieu peut appeler telle ou telle âme généreuse à aller plus loin dans l'offrande. Par exemple, pour faire grandir en soi l'humilité, on peut commencer par moins parler de soi, accepter de rendre des petits services que d'autres ne veulent pas faire, ne pas chercher à avoir raison, s'effacer dans une conversation, accepter de ne pas faire connaître le bien que l'on a fait, que c'est nous qui l'avons fait. Ce sont des pistes. Ensuite, Dieu permet d'autres actes d'humilité, plus sérieux, plus profonds. Le reste était de l'échauffement. N'empêche que sans échauffement, on risque un claquage. Donc, il faut faire les choses dans le bon ordre. D'abord, nous sanctifier dans les petites choses. Et celui qui est généreux dans les petites choses, alors peut-être Dieu lui demandera plus. Ça ne viendra pas de son caprice. Parmi les saints, nous pouvons privilégier notre saint patron dans ce qu'il a d'imitable. Le mien, c'est saint Jean-Baptiste. En esprit, nous pouvons imiter notre saint patron. Cela peut nous inspirer. Tous les saints n'ont pas été découpés en rondelles, et même là, ils ont eu une vie de vertu avant leur martyre qui leur a permis de donner ce témoignage. Les saints ont aimé la croix, on peut le dire, encore une fois, pas pour elles-mêmes, bien sûr, mais parce qu'ils entrevoyaient le moyen de s'offrir avec leur divin maître, de racheter avec lui, de sauver avec lui des âmes, d'être en quelque sorte des coopérateurs et des réparateurs. S'il y a des mesures dans la pratique des saints, c'est parce qu'ils ont compris la démesure de la croix, la folie de Dieu dans un amour crucifié, et qu'ils sont entrés dans cette science de la croix. Ils sont parfois tellement plongés dans l'amour que leur souffrance elle-même devient, en quelque sorte, de l'amour porté à haute température. Sainte Thérèse de Lisieux l'exprime ainsi. « Il me semble maintenant que rien ne m'empêche de m'envoler, car je n'ai plus de plus grand désir si ce n'est d'aimer jusqu'à mourir d'amour. » Il nous reste à voir ce que produit cette école de la croix, telle que les saints l'ont vécue et à laquelle nous sommes invités à nous inscrire dans leur sillage. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Vous savez que ce sont les paroles d'un chant que nous chantons le vendredi à la vénération de la vraie croix, mais nous chanterons aussi le vendredi saint. C'est la fécondité de la croix. Là, nous allons rencontrer plusieurs mystères encore, peut-être même nous y heurter, parce que ce n'est vraiment pas évident. Comment la croix est-elle féconde? Eh bien, c'est le Padre Pio qui nous ouvre la porte de la compréhension de ce mystère. Vous savez qu'il est un des rares stigmatisés hommes. Il y en a très peu. Ce sont les femmes qui sont stigmatisées, d'habitude. Il nous ouvre la porte en insistant sur trois effets venant de la communion au mystère de la croix. La sanctification personnelle, la glorification de la Trinité sainte, et la troisième, c'est la rédemption du monde et de l'Église. En fréquentant la croix, en contemplant, en nous abandonnant, nous nous sanctifions personnellement. Nous l'avons déjà dit, l'intimité avec le Christ implique la communion à ses souffrances. Il nous les partage comme un trésor qu'on veut donner, quand on veut donner le meilleur à ses amis. Il nous montre un chemin qu'il a emprunté lui-même avant nous, en nous disant que pour être dans la gloire avec lui, il faut le suivre, porter sa croix. C'est comme la transfiguration avant la passion. La croix élargit nos horizons, nos capacités d'aimer, en ouvrant notre cœur. Nous regardons et vivons autrement. Si nous entendons l'appel à être nous aussi des saints, Si nous voulons et acceptons de répondre à cet appel, nous connaissons le chemin. La vraie question, c'est le voulons-nous ? Ensuite, il y a la glorification de la Sainte Trinité. C'est plus mystérieux qu'il n'y paraît. Comment nous, comme dit le psaume, grain de sable sur un plateau de balance, comment pouvons-nous glorifier Dieu ? Lui qui pourrait à chaque instant se passer de nous, mais qui veut avoir besoin de nous. Disons, pour essayer d'expliquer, que Dieu a créé les êtres et les choses dans un ordre naturel et surnaturel. Et que le péché étant venu troubler cet ordre, il faut le restaurer. Par conséquent, tout ce qui tend à restaurer cette harmonie perdue, cet ordre gaspillé, et donc tout ce qui fait tendre aux origines de la grâce est une reconnaissance de cette gloire de Dieu. C'est l'ordre de la grâce qui fait de la recréation une merveille encore plus grande que la création. La rédemption de l'homme est plus belle que sa création. C'était une prière de la messe dans l'ancien rite, au moment où le prêtre versait la goutte d'eau. La gloire de Dieu, dit saint Irénée, c'est l'homme vivant. Et la grandeur de l'homme, c'est la vision de Dieu. Il y a la rédemption du monde et de l'Église comme fécondité de la croix. Tout ce qui n'est pas offert est perdu. On pourrait dire à l'inverse que tout ce qui est offert est fécond. Et c'est bien de cela dont il s'agit ici. Ce qui rend vraiment la croix féconde, c'est l'offrande que nous en ferons. Sinon, c'est un peu comme si on avait une source extraordinairement puissante qu'on laisserait dormir en n'utilisant pas, comme un barrage dont on ne tirerait pas parti. Ce sont les meilleures images qui me viennent. La croix n'est féconde que si elle est offerte. En offrant la croix que nous vivons, c'est comme si une énergie surpuissante se trouvait libérée pour servir. Ce que nous produisons quand nous offrons la croix, c'est ce que le Christ avec son Père ont voulu. Le Christ est venu s'incarner pour cela. Si nous ne faisons pas nôtre la croix, alors la croix, la souffrance n'ont pas de sens. Ils sont même absurdes, puisque nous sommes faits pour le bonheur, que ces situations semblent vouloir contredire. En offrant, nous rétablissons le sens voulu par Dieu. Nous entrons dans son projet de salut pour le monde et pour son peuple qui est l'Église. La croix est au service de l'humanité tout entière. Pour conclure, disons que ce qui vient d'être dit ne sont qu'un survol du sujet, bien sûr, et un aperçu. Ce n'est pas exhaustif. Il y aurait beaucoup d'autres façons de développer. Ceux qui connaissent ce sujet mieux que quiconque sont ceux qui souffrent. Mais si nous regardons chacun notre vie, nous découvrirons que le Seigneur nous a tous offert la possibilité de vivre cela. Tous nous avons notre croix que le Seigneur a plantée dans notre vie parce qu'il nous aime et veut nous associer à sa fécondité. Il nous faut la découvrir. Et en principe, ce n'est pas très compliqué. Si nous en vivons. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, encore lui, disait « Pas de croix ? Quelle croix ?» Bien sûr, il faut être un saint pour dire une chose pareille. Il exprimait très profondément tout cela. Saint François de Sales qui disait « Il y a trois sortes de croix, celle du mauvais larron, méritée et refusée, celle du bon larron, méritée et offerte, et celle de Jésus, recherchée par amour et offerte. Je termine encore avec Saint Louis-Marie, avec deux traits qui pourront peut-être nous aider dans le concret de la vie. Tout d'abord, il nous dit que celui qui veut trouver Jésus sans sa croix trouvera la croix sans Jésus. Et ça, c'est très profond, croyez-moi. Nous regardons déjà le terme, c'est-à-dire la gloire, en oubliant par où il nous faudra passer. Celui qui veut trouver Jésus sans sa croix trouvera la croix, parce qu'elle est toujours présente dans la vie, mais sans Jésus. Et enfin, comme une belle image, un peu selon l'humour qu'il avait, parce qu'elle est, par l'offrande de toute sa vie, et présente aussi au pied de la croix, Marie a un rôle suréminent de la compréhension de ce qu'elle est et de l'offrande de la croix. Il faut par conséquent lui offrir nos croix quotidiennes qu'elle transformera. Il dit à peu près ceci, à savoir que quand nous les lui offrons, Marie fait de nos croix de la confiture. C'est-à-dire qu'elle les enrobe, elle les rend sucrées. C'est sans doute la seule chose que je reprocherai à ce grand saint, c'est de ne pas avoir trouvé d'autre comparaison. Marie, c'est la confiture des croix. On lui donne nos croix et elle les adoucit, elle les rend plus faciles à digérer. En tout cas, sachons que pour toute l'humanité, Marie est pour toujours au pied de nos propres croix au quotidien pour nous soulager. Alors, il y a un petit appendice qui est signalé sur la feuille et qui est important dans ce temps de carême, c'est comment se confesser. Tout d'abord, il faut savoir que toute rencontre personnelle, vous le savez déjà, tout sacrement, pardon, est une rencontre personnelle avec Dieu, avec le Christ. Et pour nous qui sommes prêtres, il est un peu désolant de voir parfois, qu'on se confesse, je dirais, à la sauvette. Un examen de conscience est souhaitable quand on se confesse. Soit sur les péchés commis envers Dieu, soi-même, le prochain, ou à partir des commandements, ou des béatitudes, ou d'une autre parole de Dieu. On peut trouver des examens de conscience, plus ou moins complets, mais assez bien faits, mais il est important de toujours se préparer à la confession. Ne pas arriver, de dire, bah, tiens, le confessionnal est libre, allons-y. Il faut être prêt, c'est un événement grave dans notre vie, qui a son poids. C'est le poids du pardon et de la miséricorde de Dieu. Ça se prépare. Un autre point qui est important, là aussi nous en parlons de temps en temps, excusez-nous que le prêtre ne soit pas transparent. Alors, pour rendre plus facile la confession, pendant quelques années, c'est pas si vieux que ça, on a pris l'habitude de dire « Jésus, je te demande pardon. » Mais moi, je suis là. C'est Jésus, c'est Dieu, d'abord, c'est pas Jésus, c'est Dieu qui va donner le pardon, mais pas sans le prêtre. Et on entend de très belles confessions, par ailleurs, très belles. Mais c'est Jésus, je te demande pardon, Jésus. Mais normalement, on avait appris qu'on disait d'abord « Père, bénissez-moi parce que j'ai péché. » Et après, je m'accuse devant vous de tel péché. Bon. Et c'est pas Jésus qu'on parle en direct. Ensuite, il faut être précis dans ce que l'on dit. On ne confesse pas, par exemple, une tendance, mais des actes ou bien des omissions. Je dirais un petit mot des omissions. Exemple, on ne pas dit « j'ai tendance à... » On dit « j'ai été paresseux. » Je me suis mis en colère. J'ai été gourmand. On dit « j'ai tendance. » Évitez à tout prix de rester dans le vague. J'ai peut-être été parfois un peu négligent. dans ma prière. Alors déjà, on dit « ma » parce que celle du matin est exclue. Traduction, je ne prie jamais. Ou bien, il m'est peut-être arrivé de faire des petits mensonges. Traduction, je mens tout le temps. Pareil, pour il m'est peut-être parfois arrivé exceptionnellement d'être en retard à la messe. Ça veut dire jamais à l'heure. L'omission, c'est important. On le dit, vous savez, dans le « Je confesse à Dieu », avant on ne le disait pas, mais dans le « Nouveau », entre guillemets, maintenant il commence à dater, mais « Je confesse à Dieu », on dit « et par omission ». L'omission n'est pas toujours très bien comprise, même assez rarement. L'omission, c'est de ne pas poser un acte, sinon ce serait la commission, commettre, mais là c'est omettre, que l'on devrait, hein, que l'on devrait, on a le devoir de le poser. Alors par exemple, on va dire pour des parents, ils ont le devoir de s'inquiéter, c'est leur rôle d'éducateur, mais par exemple que leurs enfants creusent un peu leur foi. Voilà un exemple. Qu'est-ce qu'ils regardent sur leur tablette ou leur smartphone ou Internet ? C'est le devoir des parents. Et ne pas le faire, c'est une omission, parce qu'ils le doivent. Par contre, on n'est pas obligé de s'accuser d'être à l'unisson de toute la planète parce que quelqu'un est mort à l'autre bout. On n'aurait rien pu faire. De toute façon, on n'était pas tenu, on ne pouvait pas le faire. Là, on est dans l'imaginaire d'une confession qui, finalement, n'a pas beaucoup de sens. Les parents doivent savoir qui fréquente leurs enfants, etc. Qu'est-ce qu'on leur enseigne à l'école ? Les programmes, etc. Donc, vous voyez, l'omission, c'est... J'ai pris uniquement l'exemple des parents, mais vous pouvez transposer. C'est un acte que l'on devrait, par devoir, poser, qu'on ne pose pas. C'est une omission. Alors, on se confesse soi, et pas les autres. J'ai été désagréable, mais alors ma femme est très agaçante. Hein, si vous la connaissiez, vous... Bon. Mais c'est pas... On se confesse plus soi-même, là. J'ai dit du mal de ma voisine de palier, mais alors elle fait exprès de claquer sa porte et de faire du bruit avec le vide-ordure. On n'a rien confessé du tout. Éviter la lassitude qui est due à un mauvais examen de conscience, ou effectivement quand on se confesse sans préparation. Mon père, je fais toujours les mêmes péchés. Mais madame, on ne vous demande pas d'en faire de nouveau. Voilà. Ça, c'est un mode un peu amusant. Mais surtout, il ne faut pas perdre de vue, à cause de l'habitude qu'on a quand même de se confesser, qu'il faut regretter ses péchés. Vous savez que c'est la condition sine qua non pour être pardonné. Le prêtre aurait beau dire les paroles de l'absolution, s'il n'y a pas de regret de la part du pénitent, il n'y a pas de pardon. Ce n'est pas une opération magique. Il faut donc méditer sur la passion du Seigneur et sa croix. Autrefois, dans les catéchismes ou manuels ou missels, on disait qu'il faut s'exciter à la contrition. C'est-à-dire, effectivement, trouver le rapport qu'il y a entre le Christ qui donne sa vie sur la croix et mon péché. Donc, on doit contempler la passion du Seigneur et sa croix. Il n'a pas fait semblant de nous aimer. Il a même payé très cher la dette de notre péché, le nôtre, pas le sien. Il s'est chargé de nos péchés. Et c'est mon péché qui est la cause de sa crucifixion. Même si, nous le savons bien, il y a des péchés plus graves que d'autres parce qu'ils sont mortels, en ce sens qu'ils nous coupent de Dieu, tous les péchés offensent le Seigneur, nous blesse nous-mêmes, puisque nous sommes faits pour le bonheur de la sainteté, et blesse l'Église, qui est une communion. Rappelons-nous cette phrase de l'Évangile. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et dans Luc chapitre 15, de la joie, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Profitons de ce carême pour bien scruter, grâce aux lumières de l'Esprit Saint, notre cœur. Et comme nous l'avons chanté, revenons au Seigneur de tout notre cœur. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle.
Nous allons donc maintenant exposer le Saint-Sacrement et prendre un petit temps d'adoration, nous confier au Christ Sauveur qui nous a aimés jusqu'au bout.